Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité en partenariat avec le département de la Vienne. Réalisé par vos 5 radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora et REC.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Vivre en Vienne, le magazine d'actualité départementale produit par vos radios associatives. Les chiffres du dépistage du cancer colorectal s'améliorent nettement dans la région ces dernières années. Mais la participation des Néo-Aquitains reste insuffisante. Des centaines de vies pourraient encore être sauvées, d'autant que détecté tôt, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10. On en parle à l'occasion de Mars Bleu. C'est le sujet de l'interview. L'association Vacances et Familles lutte contre les freins financiers, logistiques et culturels afin que toutes les familles puissent partir en vacances. Nous irons à la rencontre de deux de leurs bénévoles dans notre reportage. Nous finirons comme à l'habitude par l'agenda culturel. Vous êtes bien à l'écoute de Vivre en Vienne. Merci d'être avec nous. À l'occasion de la nouvelle édition de Mars Bleu, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Nouvelle-Aquitaine, accompagné de tous ses partenaires, poursuit sa mobilisation en faveur de la prévention du cancer colorectal. Rencontre au micro de Radio Pulsar.
Et pour parler de Mars Bleu, on accueille tout de suite Sophie Babin, chargée de santé publique au Centre de coordination de dépistage des cancers en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour.
Bonjour.
Et vous n'êtes pas venue toute seule puisque vous accompagne Virginie Lepage et Aïcha Djoma, deux stagiaires en Master 2 Psychologie du comportement de l'Université de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là toutes les trois pour nous parler de cet événement important, Mars Bleu. Et on commence peut-être avec cette bonne nouvelle, une participation en hausse en Nouvelle-Aquitaine pour le dépistage du cancer colorectal.
Oui, tout à fait. On peut constater que depuis quelques années, la participation au dépistage du cancer colorectal tend à augmenter, mais c'est pourtant il ne faut pas s'en satisfaire. Les objectifs européens qui nous ont été fixés sont d'atteindre à minima les 45%. Aujourd'hui, on est à 37%. Et même de tendre jusqu'aux 65%. Donc, on a vraiment encore beaucoup de travail à faire et d'actions à mener pour démocratiser le dépistage du cancer colorectal. C'est un dépistage qui n'est pas forcément bien connu, pour lequel on a pas mal de freins à la réalisation. Le premier frein, c'était aussi de se dire que c'était un dépistage un peu confidentiel, c'est-à-dire qu'on avait du mal à accéder au kit de dépistage. Rentre dans le combat avec nous cette année, c'est la grande nouvelle, les pharmaciens. Le kit de dépistage va être disponible dans les pharmacies, les officines formées. Et sur le territoire de la Vienne, on compte à peu près 6 pharmacies sur 10 qui sont formées. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et puis, on a développé une stratégie différente de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Si on voit que les dépistages organisés fonctionnent plutôt bien en ville, un peu moins sur les territoires ruraux, si on descend dans une analyse un peu fine, eh bien, on se rend compte que les quartiers prioritaires de ville participent beaucoup moins au dépistage organisé. On tombe à 20,6%, donc c'est 17 points de participation au moins par rapport à la moyenne départementale. Et là, on nous a rejoints sur ces projets-là, Virginie et Aïcha.
On va justement parler de cette étude que vous allez mener. Comment ça s'intègre dans votre cursus à toutes les deux?
Du coup, nous, l'objectif de notre mission, c'est de pouvoir participer à faire augmenter le dépistage du cancer colorectal. Et du coup, nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que grâce à notre formation, on suit une méthodologie scientifique. Donc en fait, on effectue une revue de la littérature pour comprendre vraiment qu'est-ce qui sont les freins et les leviers du comportement de dépistage. Et la particularité, c'est qu'on va vraiment prendre en compte les caractéristiques de la population cible. Donc en l'occurrence, les habitants des quartiers prioritaires de la ville.
L'étude n'est pas encore finie, mais est-ce que vous avez déjà un petit peu des pistes sur justement quels sont les freins à ce dépistage?
Cette recherche de littérature qu'on a faite nous permet d'identifier des déterminants de santé qui peuvent être des leviers. En fait, ces derniers vont nous permettre de mieux comprendre le comportement pour ensuite concevoir des actions accompagnant au changement comportemental. Et notre travail nous a amené à la création de deux outils, une vidéo pour Virginie et une bande dessinée pour moi. Et en fait, ces outils ont pour vocation de jouer sur les principaux déterminants influençant le comportement de dépistage du cancer colorectal ici. Et en effet, nous avons pu identifier 5 déterminants, les connaissances générales sur ce cancer, la vulnérabilité perçue, c'est-à-dire à quel point je me sens vulnérable ou concernée par ce cancer, les bénéfices perçus de se faire dépister, les normes sociales.
Et il y a également le sentiment d'auto-efficacité. Donc en fait, ça constitue la croyance que l'on a en ses propres capacités à pouvoir réaliser un comportement. Enfin, le comportement de dépistage pour le colorectal, c'est à faire soi-même. Donc en fait, on va essayer de montrer à la population que c'est un comportement qui est assez facile à faire.
Ce test simple, gratuit, accessible, permet de sauver des vies. 3 minutes de son temps permettrait d'éviter des cancers. Le cancer colorectal, il se développe sur l'intestin à partir de petites excroissances qui s'appellent des polypes. Et ces polypes peuvent grossir. Au passage des matières fécales, peuvent saigner et se sent invisible à l'œil nu. C'est ce qui peut amener au cancer colorectal. Et ce test simple permettrait vraiment de sauver plus de 600 vies en Nouvelle-Aquitaine. Et pris à temps, c'est 9 chances sur 10 de pouvoir en guérir.
Qu'est-ce qui doit en priorité faire ce test ?
Alors, ce test, il s'adresse aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans qui n'ont pas de facteurs de risque particuliers, autre que d'avancer en âge. C'est le 3e cancer chez l'homme après la prostate et le poumon, et le 2e chez la femme après le sein. Et en termes de mortalité, le 2e chez l'homme et le 3e chez la femme. Avec un âge médian de diagnostic à 71 ans chez l'homme, à 73 ans chez la femme, et qui a une part attribuable très fortement à nos comportements et à nos modes de vie. 80% des cancers colorectaux sont attribués à notre mode de vie, 15% d'origine familiale, c'est-à-dire qu'on a les mêmes comportements en santé. C'est là aussi où le travail d'Aïcha et Virginie viennent alimenter notre pratique, c'est faire expliquer aux gens que le cancer colorectal, c'est pas qu'une origine génétique, c'est pas parce qu'il y en a eu un dans ma famille que j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. En fait, le cancer colorectal, il est lié à notre société très industrialisée, puisqu'il est attribuable au comportement alimentaire. 20% au tabac, 8% à l'alcool, 5% à l'alimentation déséquilibrée et 5% au surpoids. L'Institut national du cancer nous dit que 40% des cancers pourraient être évités si on modifiait nos modes de vie. Et là, pour le cancer colorectal, c'est particulièrement vrai. Manger 5 fruits et légumes par jour, pratiquer 30 minutes d'activité physique, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et dans la réduction des risques, il faut encourager vers une alimentation riche en fibres, riche en légumes secs, et réduire tout ce qui est ultra transformé et tout ce qui contient des sels nitrités, notamment la charcuterie, les jambons, et réduire sa consommation de viande rouge, pas plus de 500 grammes par semaine. Mais 500 grammes par semaine, c'est l'équivalent de 5 steaks hachés.
Vous êtes donné une nouvelle feuille de route, en fait, pour cette question de prévention sur le territoire, parce que le dépistage a beau augmenter, ça ne suffit pas encore, on est encore loin de vos objectifs.
Tout à fait, on travaille en synergie avec différents acteurs, donc avec l'ARS avec qui on a établi cette nouvelle feuille de route. Et puis on va mettre en place une action sur le quartier des Couronneries, c'est l'action du Colontour, donc c'est une grosse structure gonflable dans laquelle on peut évoluer pour comprendre l'évolution d'un polype et pourquoi il est important de se faire dépister. C'est toute l'évolution, les différents stades, mais de pouvoir se le représenter dans cette grosse structure de 12 mètres de long, c'est ce qui va permettre d'accéder à la connaissance.
Vous n'avez jamais visité un colon géant.
Jamais.
C'est le 14 mars de 10h à 16h, place de Provence à Poitiers. En tout cas, le message est passé sur nos ondes. Dépistez-vous pendant Mars Bleu, c'est l'occasion. Merci Sophie Vabin, donc chargée de santé publique au Centre de coordination de dépistage des cancers en Nouvelle-Aquitaine, et Virginie Lepage et Aïcha Djoma, donc deux stagiaires qui travaillent donc sur l'évolution des comportements. Merci beaucoup à toutes les trois.
Merci à vous.
Merci.
Chantal et Françoise sont au micro de Jenna de Style FM pour parler du travail de l'association Vacances et Familles qui œuvre pour l'accès aux vacances pour les familles les plus en difficulté depuis 60 ans.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Chantal et Françoise qui sont venues nous parler de l'association Vacances et Familles. Alors dites-nous, Chantal, qu'est-ce que l'association Vacances et Familles ? Quel est son objectif ?
Alors, l'objectif, c'est de permettre à un maximum de familles en difficulté à partir en vacances et de ne pas se mettre de freins ni financiers ni culturels, d'essayer de partir en vacances pour être comme tout le monde avec leurs enfants. Vacances et familles existent depuis 60 ans. Nous sommes une association à but non lucratif. Notre siège social est à Paris et nous intervenons sur toute la côte atlantique et une partie de la côte méditerranéenne. Nous avons réussi à faire partir plus de 5500 personnes, dont un tiers sont des enfants. Il faut savoir qu'un tiers des enfants français ne partent jamais en vacances. L'important, c'est de leur donner cette culture de vacances pour un jour, en tant qu'adultes, pouvoir emmener leurs enfants en vacances également.
Qui peut avoir accès à l'aide de l'association Vacances et Familles ?
Toute personne qui bénéficie de la CAF et de la VACAF peuvent prétendre à Vacances et Familles.
Combien de personnes œuvrent aujourd'hui au bon déroulement de l'association et est-ce que ce sont uniquement des bénévoles ?
Non, nous sommes une grosse population de bénévoles, il y a à peu près 80% du groupe, nous ne sommes que des bénévoles, mais nous avons une trentaine de salariés qui nous accompagnent sur l'aspect financier et administratif et juridique bien évidemment.
Vous recherchez donc des bénévoles ?
Absolument, nous avons besoin de main-d'œuvre, nous avons besoin de bonne volonté, de disponibilité. Nous sommes toujours en recherche de bénévoles. Les bénévoles sont très volatiles, mais aujourd'hui, tout le monde est volatile, que ce soit des salariés ou des bénévoles. Nous sommes en constante recherche pour nous accompagner et surtout accompagner les familles qui ont des difficultés de sociabilité, de logistique. Nous avons des familles, par exemple, qui viennent en vacances et qui ne sont pas mobiles. Donc nous intervenons pour aller les chercher au train, pour les accompagner sur les courses, pour les accompagner sur la logistique. Il nous faut des bonnes volontés, mais même si c'est 2 jours par mois, ça nous suffit. On accepte tout le monde avec grand plaisir.
Alors l'appel est donc lancé, recherche de bénévoles mais aussi de dons. Qui est-ce que l'on contacte pour avoir des infos complémentaires ? Alors qu'on se situe à la fois du côté de ceux qui veulent apporter un soutien, mais aussi du côté de ceux qui veulent avoir de l'aide de la part de l'association.
Alors pour les deux, nous avons une adresse mail, c'est vacancesetfamilles@.org, où vous avez toutes les informations nécessaires. Autrement, nous avons quand même un téléphone, c'est plus difficile, mais 06 56 14 62 98.
Merci toutes les deux.
Merci à vous de votre accueil.
Merci. Bonne continuation à l'association et merci pour votre soutien.
L'agenda de cette semaine vous est présenté par Ludmila pour RCF Poitou.
Bonjour Jacques, à noter dans vos agendas cette semaine le carnaval de Poitiers qui a lieu samedi 11 mars avec pour thème cette année Bollywood, un thème tout en couleurs où les confettis laisseront place à de la poudre colorée dans un souci écologique. À partir de 16h30, des jeux et animations seront proposés place du Maréchal Leclerc. Le défilé s'élancera lui à 17h30 et la soirée continuera avec un concert de l'orchestre Bollywood Maharaja et une distribution de soupe indienne. Lundi, à Jansay est donnée une conférence sur David Bowie par le musicologue Mathieu Thibault, une discussion suivie de la diffusion du film Moon Age Daydream. C'est au passage des Trois Marchands. À 18h, l'entrée est à 7,50€. Le printemps se fait sentir à Saint-Benoît. Mardi 14 mars, le printemps des poètes débute au dortoir des moines avec pour thème cette année les frontières. Des rencontres avec les poètes sont prévues. Et on termine cet agenda avec une exposition à Poitiers à l'espace Mendès France sur l'obscurantisme et l'illettrisme qui questionne sur la présence de l'obscurantisme et de l'illettrisme dans les sociétés du passé, mais aussi d'aujourd'hui.
Vivre en Vienne, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations locales. En attendant, prenez soin de vous.
C'était Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité réalisé par vos 5 radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora, REC et en partenariat avec le département de la Vienne.